Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. En Côte d'Ivoire, 22 personnes ont été condamnées hier à des peines de prison pour traite d'enfants dans les plantations de cacao du pays. Ces condamnations ont été prononcées par le tribunal de Soubré dans l'Ouest ivoirien, la grande zone de production cacaoyère, suite à une opération coup de poing début mai contre la traite d'enfants dans la région de Soubré. En République démocratique du Congo, un responsable musulman, Cheikh Moussa Djamali, a été tué par balle hier soir à Beni, deuxième assassinat du genre depuis mai, dans une région de l'est du pays où le groupe islamiste des ADF est accusé du massacre de milliers de civils depuis 2014. RDC toujours, vive réaction à des propos du président rwandais Paul Kagame, niant les crimes commis dans le pays par des armées étrangères il y a plus de 20 ans. Nous y reviendrons avec Marius Muhunga. Au Congo-Brazzaville voisin, l'UPADS, principale formation d'opposition, suspend Honoré Saï, le président de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, après sa nomination comme ministre dans le nouveau gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. M. Saï a été remplacé à ce poste par Jérémy Lissouba, fils du défunt président Pascal Lissouba, fondateur de l'UPADS. À Paris, le sommet sur les économies africaines demande la levée des brevets sur les vaccins afin de permettre la production de vaccins en Afrique. Michel Joseph fera le point. Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Moyen-Orient, Joey Hood, a assuré mardi du soutien de Washington aux nouvelles autorités de transition en Libye lors d'une rencontre à Tripoli avec le premier ministre Abdelhamid Dbeiba et sa chef de la diplomatie Najla Al-Mangouche. Selon la Tunisie, plus de 50 personnes sont portées disparues et une trentaine ont été secourues après le naufrage dans la nuit de lundi d'un bateau parti de Libye pour rejoindre clandestinement l'Europe. Dernier drame en date sur l'une des routes migratoires les plus meurtrières du monde. Le gouvernement espagnol a tapé du poing sur la table hier en convoquant l'ambassadrice marocaine pour lui exprimer son mécontentement face à l'arrivée de près de 8000 migrants à Ceuta depuis lundi en provenance du Maroc sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays. La France propose une résolution pour un cessez-le-feu auprès du Conseil de sécurité de l'ONU alors que bombardements israéliens et salves de roquettes du Hamas palestinien ont fait de nouvelles victimes et les violences se sont ravivées mardi en Cisjordanie et à Jérusalem lors d'une journée de la colère. Ces rassemblements ont dégénéré en affrontements avec l'armée. 4 Palestiniens ont été tués et des soldats israéliens blessés par balles. La démarche française, en coordination avec l'Égypte et la Jordanie, risque de braquer les États-Unis au Conseil de sécurité, bloqué depuis 8 jours par Washington sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit, selon des sources diplomatiques. Le Conseil a tenu hier sa 3e réunion à huis clos en une semaine. Selon les mêmes sources, les États-Unis estiment qu'un communiqué public dans l'immédiat ne contribuerait pas à apaiser les tensions, préférant privilégier les démarches diplomatiques intenses. Le président américain Joe Biden a déjà exprimé son soutien à un cessez-le-feu dans ce conflit. Au moins 230 personnes ont été tuées, en grande majorité des Palestiniens. La France rouvre ses terrasses et ses musées, l'Autriche ses restaurants, New York tombe le masque, la population de plusieurs pays occidentaux retrouve mercredi un peu de liberté à la faveur d'un recul de l'épidémie, au contraire de l'Inde toujours plongée dans une crise sanitaire aiguë. La Trump Organization, le conglomérat appartenant à la famille de l'ex-président américain Donald Trump, est visé par une enquête pénale menée conjointement avec le procureur de Manhattan, a annoncé mardi la procureure de l'État de New York. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seloudia.
La suite de nos informations, le sommet sur les économies africaines qui s'est terminé hier à Paris demande la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid afin de permettre la production de vaccins en Afrique. Le point avec Michel Joseph.
Ce sommet a réuni les dirigeants d'une vingtaine de pays africains, de plusieurs pays européens, mais aussi de Chine, des États-Unis, avec le FMI et la Banque mondiale. Nous soutenons les transferts de technologies et un travail a été demandé à l'OMS, l'OMC, de lever toutes les contraintes en termes de propriété intellectuelle qui bloquent la production de quelque type de vaccin que ce soit, a déclaré le président français à l'issue de la conférence. Il a annoncé une initiative pour produire massivement des vaccins en Afrique. C'est un soutien explicite à la levée des brevets réclamés par l'Inde et l'Afrique du Sud après l'appel en ce sens du président américain Joe Biden. Nous allons donc donner mandat au Fonds monétaire international pour regarder comment mobiliser plus de 50 milliards de dollars, a ajouté le président français. L'objectif est d'utiliser une partie des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international dès le mois de juillet pour distribuer les doses en surnombre dans les pays riches afin d'atteindre 40% d'Africaines et d'Africains vaccinés à l'issue de l'année 2021.
Des propos du président rwandais Paul Kagame niant les crimes commis par des armées étrangères il y a plus de 20 ans en République démocratique du Congo ont suscité de vives réactions. Les détails avec Marius Muhunga.
Il n'y a pas eu des crimes dans l'est de la RDC, absolument pas, a déclaré Paul Kagame, répondant aux questions d'un journaliste lors de son passage à Paris à l'occasion d'un sommet France-Afrique. La prise de position de M. Kagame n'est ni plus ni moins que du négationnisme, a déclaré le député Juvenal Munombo, rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale à Kinshasa. L'opposant Martin Fayulu le fustige des propos négationnistes, disant que les Congolais se font narguer à cause de l'absence de leadership légitime et fort à la tête du pays. Pour le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, les propos de M. Kagame viennent souiller la mémoire des milliers de victimes congolaises. Par ailleurs, dans la même interview accordée à des médias français, le président rwandais a accusé le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, d'être un outil des forces que l'on ne voit pas. Pour sa part, le gouvernement congolais n'a pas encore réagi.
Une centaine de transporteurs et compagnies du secteur maritime ont signé hier une déclaration appelant à créer une coalition contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Compte rendu de Nanit Talani.
Cette déclaration appelle à une plus grande coopération entre les forces navales locales et étrangères, car plusieurs navires des pays de l'Union européenne patrouillent déjà dans le golfe de Guinée. Les signataires réclament un renforcement des capacités et un meilleur partage des renseignements entre les acteurs. En 2021, la menace d'être enlevé pour une rançon pèse sur tous les marins, déplorent les 99 entreprises maritimes, membres de la première association mondiale de transporteurs maritimes. Si le nombre d'attaques reste inchangé par rapport à 2020, la violence, la portée et la sophistication de celles-ci ont augmenté, s'inquiètent ces compagnies. Elles appellent toutes les parties à s'unir dans une coalition pour mettre fin à la menace de la piraterie dans le golfe de Guinée. En 2020, 130 des 135 enlèvements de marins dans le monde ont eu lieu dans cette zone, selon un récent rapport du Bureau maritime international.
La Minute Éco, John Linden.
La Guinée est devenue le troisième pays africain à signer l'accord portant création du Fonds pour le développement des exportations, une filiale de la Banque africaine d'import-export. L'accord a été signé le 31 mars. Afreximbank a souligné lundi qu'après le Rwanda en 2020 et la Mauritanie en janvier 2021, la signature de l'accord par la Guinée était une étape importante. Les fonctionnaires maliens observent depuis lundi une grève de 5 jours pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Lancée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, ce mot d'ordre est suivi par les établissements bancaires. Les grévistes réclament la satisfaction d'une série de 48 points de revendication. Les consommateurs américains, soutenus par les aides du gouvernement, ont repris le chemin des supermarchés. Les chèques versés par le gouvernement fédéral à de nombreux ménages ont clairement un impact, a reconnu le patron de Walmart, mardi. Le chiffre d'affaires de son entreprise a progressé entre février et avril. Celui de Home Depot a bondi à 37,5 milliards de dollars. Macy's a dégagé un bénéfice net de 103 millions de dollars contre une perte de 3,6 milliards en 2020.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Basketball Africa League pour commencer. Deuxième sortie aujourd'hui pour les clubs du groupe A. Opération sauvetage pour les malgaches de GNBC qui feront face aux Hôtes rwandais. Étincelant en début de tournoi, les Patriots voudront confirmer leur niveau du match inaugural réussi face aux Hoopers du Nigeria. Deuxième match également dans le groupe C à suivre le duel maghrébin entre le Zamalek d'Égypte et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie. Bien avant, les Mozambicains de Ferroviaro de Maputo, qui ont perdu leur premier match, tenteront de se racheter devant les Sénégalais de l'AS Douane, victorieux lors de leur première sortie. Hier, les Camerounais de FAP ont longtemps mené devant les Marocains de l'AS Salé, avant de se faire rattraper puis distancer dans le dernier quart-temps. Score final 87-84 pour les Marocains. Un peu plus tôt, dans la première rencontre, les Angolais de Petro de Luanda étaient face aux Bamakois de l'AS Police, lourde défaite des Maliens, 84-66 face aux Angolais. Cyclisme au Bénin, la troisième étape du Tour international béninois, fera l'objet aujourd'hui d'un critérium de 30 tours à Parakou, soit 105 km. Hier, Paul Daumont a enlevé la deuxième étape, vainqueur de la première étape disputée lundi. Le Burkinabé s'est une fois de plus imposé à l'arrivée de cette deuxième étape courue entre Tunkuntuna et Djougou sur une distance de 100 km. Il a devancé au sprint l'Ivoirien Abou Sanogo. Paul Daumont conserve ainsi son maillot jaune. En France, Karim Benzema est de retour en sélection, écarté de l'équipe de France depuis 2015. Dans le sillage de l'affaire de la sextape, l'attaquant du Real Madrid a été rappelé pour disputer l'Euro prévu du 11 juin au 11 juillet. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, dit avoir beaucoup discuté avec l'attaquant de 33 ans avant de le rappeler.
Pourquoi maintenant ? Écoutez, je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière, changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. On a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses. Et pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui.
Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Sur Twitter, Karim Benzema, footballeur aux plus de 12 millions d'abonnés, s'est dit tellement fier du retour chez les Bleus et de la confiance à lui accordée. Adulé en Espagne, controversé en France, Benzema va enfin renouer le fil de son histoire avec la sélection, 5 ans et demi après un dernier doublé contre l'Arménie, 4-0 le 8 octobre 2015 à Nice. Bienvenue à tous, la Basketball Africa League bat son plein à Kigali au Rwanda. Deuxième sortie ce mercredi pour les clubs du groupe A. Opération sauvetage pour les malgaches de GNBC qui feront face aux Hôtes rwandais. Étincelant en début de tournoi, les Patriots voudront confirmer leur niveau du match inaugural réussi face aux Hoopers du Nigeria. Dans le groupe C, à suivre le duel maghrébin entre le Zamalek d'Égypte et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie. Bien avant, les Mozambicains de Ferroviaro de Maputo, qui ont perdu leur premier match, tenteront de se racheter devant les Sénégalais de l'AS Douane, victorieux lors de leur première sortie.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, les prix du logement sont en constante hausse. que ce soit le coût mensuel du loyer, les garanties ou les cautions. Une situation qui interpelle le gouvernement togolais, ce dernier planche sur l'élaboration d'une législation dans le secteur. Les difficultés relatives aux cautions dans le secteur immobilier au Togo, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
On est dans une cour commune. Une pièce salon, quand on a trouvé ça, c'était à 20 000 francs par mois.
Gisèle vit en location. Elle occupe un local de 2 pièces. Pour y avoir accès, elle a dû verser une caution de 12 mois.
Le maisonnier chez lui, c'est un contrat de 12 mois. Tu finis les 12 mois, tu verses encore l'autre 12 mois aussi. 3 mois avant la fin du contrat, à tout moment, tu es harcelé. Quand il t'appelle, ce sont des menaces.
C'est un peu la situation que vivent les locataires au Togo. Les cautions, pour la plupart des cas, ne sont pas en dessous de 10 mois de loyer. Pour rassembler ces fonds, dans un pays où le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est à 35 000 francs CFA, il faut être un vrai acrobate.
Pour payer une avance de 12 mois, parfois 18 mois, il faut nécessairement faire un prêt.
Sénat, infirmier d'État.
Et ce n'est pas forcément à la banque, puisque nous avons déjà contracté des prêts à la banque. Tu ne peux pas aller faire un prêt sur un autre prêt. Donc nous avons aussi des amis qui nous soutiennent. Donc on se rabat un peu sur eux.
Je faisais une tontine de 10 000 francs par mois. Et ça coïncidait avec mon tour, j'ai pris 120 000.
Gisèle, comptable.
Mon mari s'est levé aussi, il a trouvé un 100 000. Et on a jonglé avec nos salaires du mois. Ça faisait alors les 240 000 francs. On est parti verser chez le maisonnier et il nous a remis les clés.
150 000 la maison par mois. On m'a pris un an et demi.
Gérard, employé dans un cabinet d'architecture.
C'est un parcours de combattant en fait. Il faut des fois aller voir le banquier qui vous donne un petit montant. Et si tu as quelque chose de côté, tu fais ton jonglage et puis au finish tu arrives.
Le président de la Fédération togolaise de l'immobilier tente d'expliquer ce qui peut justifier la fixation de telles garanties par les propriétaires de logements d'habitation. Alexandre de Souza, président de la Fédération togolaise de l'immobilier.
Premièrement, il y a une absence totale de réglementation du secteur immobilier. De deux, le système dans lequel nous sommes, où il y a plus de 80-90% d'informels, les locataires ne donnent pas suffisamment de garanties de solvabilité. La troisième chose, il n'y a pas réellement d'accompagnement ni au niveau du crédit, qui est très très cher chez nous, ni au niveau des matériaux de construction. Et quatrième chose, la pénurie de logements. Il y a un manque criard de logements dans le pays.
Concernant le vide juridique en la matière, le gouvernement veut y remédier. Un décret est en cours d'étude pour plafonner la caution et la garantie de loyer.
Ce projet est le bienvenu. Je pense que le gouvernement a bien fait de vouloir essayer quand même de permettre aux uns aux autres de respirer un peu par rapport à cela.
Plafonner les cautions et tout cela, c'est très bien. Mais au même moment, il faut aussi revoir le prix des matériaux de construction qu'on applique dans le pays. Et c'est ça qui impacte sur les cautions qu'on sort que les propriétaires de maisons fixes.
La mise en application de ce décret, une fois qu'il est pris, peut être confrontée à la réticence des propriétaires de logements d'habitation, estime Alexandre de Souza, qui suggère un autre mécanisme d'appui à la législation.
Cette tendance ne peut réellement s'inverser par une loi, en réalité. Elle ne peut s'inverser que par des actes concrets, par des constructions. Quand on va déverser plusieurs logements sur le marché, et ça va permettre de réduire cette augmentation. Et quand les propriétaires privés se retrouveront avec des logements qu'ils ont du mal à louer, ils vont baisser les prix.
Selon une étude réalisée par la Fédération togolaise de l'immobilier, les coûts des loyers dans le Grand Lomé ont connu une hausse de 15 à 25% sur les 3 dernières années en fonction des zones. Une situation née entre autres de la pénurie de logements. Il faut environ 20 000 logements par an dans le pays pour espérer arriver à bout de cette pénurie. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Bintangom veut évangéliser les jeunes du Sénégal à la crypto-monnaie et à la technologie blockchain. En tant que leader de l'une des premières communautés blockchain du Sénégal, sa compagnie Bleu comme la mer est une des premières sociétés du pays à accepter le Bitcoin. Dans son entretien avec Arzuma Compaoré, elle nous parle de sa passion pour les crypto-monnaies et de son rêve pour l'Afrique. Bintangom.
Alors, la blockchain, c'est une technologie qui se différencie de ce qu'on a connu comme technologie jusqu'à aujourd'hui grâce à cause de sa décentralisation, aussi à cause de sa désintermédiation. Donc là, je veux dire bien sûr le fait que des transactions puissent se faire de pair à pair sans intermédiaire, sans pour autant que quelqu'un au milieu puisse décider est-ce que la transaction peut se faire ou pas.
Aujourd'hui, on parle de NFT. Alors, c'est quoi les NFT?
Alors, les NFT, c'est les non-fungible tokens. Donc, ce sont des tokens qui ne sont pas remplaçables. Quand on est allé au meet-up de Saint-Louis, on a rencontré un tonton là-bas qui faisait des sculptures sur des calebasses. Donc, il avait une technique unique à lui qui lui permettait de faire ces sculptures-là sur des calebasses. Alors, comment un NFT pourrait lui permettre de vendre sa création? C'est qu'il pouvait utiliser cette création-là, les transformer en NFT et les vendre. Donc, ce sont il vendra des objets d'art uniques en leur genre. Donc, qu'une seule personne pourrait acheter et posséder. Donc, tu ne peux pas posséder un NFT et avoir le double du NFT. Donc, ils sont uniques en leur genre.
Alors, aujourd'hui, Binette a créé Bleu comme la mer. Et qu'est-ce que Bleu comme la mer fait?
Alors, Bleu comme la mer est une entreprise de vente de produits halieutiques et de produits maraîchers. Alors, pour le moment, on ne fait que la vente directe. Avec une particularité, on accepte les paiements en Bitcoin, en Ethereum et en Tezos. D'accord? Donc, c'est d'ailleurs la première entreprise en son genre, tout commerce confondu ici au Sénégal, qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Je vois une Afrique d'ici les 10-20 prochaines années être semblable au Wakanda, ou bien Wakanda, je ne sais pas, au Wakanda. Donc, je veux vraiment une Afrique comme ça, une Afrique qui est à 1000% technologique, basée sur de nouvelles technologies, que ce soit sur la blockchain, que ce soit les intelligences artificielles, que ce soit les IoT, toutes les technologies qui vont être exploitées ici en Afrique, et on aura une Afrique vraiment digne du pays de Wakanda.
C'était Bintangom au sujet des crypto-monnaies au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Euro, birr éthiopien, roupie indienne, elles en ont des devises. À Djibouti, les changeuses de monnaie sont partout et jouent un rôle prépondérant dans une économie majoritairement informelle. Il s'agit pour elles d'un emploi accessible dans un pays où les femmes sont moins alphabétisées que les hommes. Le change leur offre également un travail sans danger, disent-elles. Dans la capitale, la police n'est jamais loin non plus. Voyons tout cela avec Lionel Gahima.
Assise à chaque coin de rue de Djibouti-ville, la besace remplie d'argent. Ces femmes sont des sariflées, des changeuses de monnaie. Elles ont sur elles tout type de devises, francs djiboutiens, birres éthiopiens, euros et dollars. Noura s'est lancée dans cette activité il y a 10 ans avec les économies du ménage après le décès de son époux.
On est au courant des taux de change parce que notre banque nous donne cette feuille, c'est gratuit. C'est avec cette feuille qu'on connaît les taux de change. Le dollar, l'euro, le livre, le dollar canadien.
Elles sont des dizaines à Djibouti à faire ce travail. Il permet à des femmes parfois analphabètes de gagner leur vie. À Djibouti, pays qui compte moins d'un million d'habitants, le taux d'alphabétisation des femmes est de 43%. Medina, l'une des changeuses de monnaie.
Le travail est convenable. C'est mieux que d'être au chômage. Tu travailles, ça te sert de gagne-pain pour nourrir tes enfants. En étant assise ici, tu as une rentrée d'argent. Tu n'as pas besoin de mendier auprès de qui que ce soit. Tu travailles par tes propres moyens.
Dans son sac à main, Medina pense avoir ce jour-là 1 million de francs djiboutiens, soit 5 700 dollars environ, une somme conséquente, et pourtant, selon Zahra, sa collègue, ce métier ne comporte aucun risque.
Celui qui vole de l'argent ne vient pas à nous. J'en perds. Nous avons beaucoup, n'est-ce pas? Il ne vient pas. Si moi, celle, il va venir.
Toujours travailler en groupe et s'entraider, c'est la clé du succès. Dans le quartier populaire de PK12, vous pouvez aussi retrouver ces agents de chambre. Ce quartier est connu pour avoir beaucoup d'Éthiopiens et le bir est monnaie courante. Les chauffeurs de tuk-tuk, vendeurs de cadres ou commerçants doivent changer de l'argent tous les jours. La banque la plus proche est trop loin. Les sariflés sont donc le moyen le plus rapide et le plus efficace. Faïza, une vendeuse de cadres.
Dans 90% des cas, c'est mieux de faire le change avec elle plutôt que de changer à la banque. Elle cherche un peu de gagne-pain pour aider leur famille et elle nous aide à avoir le change.
L'économie informelle, c'est 2/3 de l'activité globale à Djibouti, un poids lourd de l'économie du pays, tenu en grande partie par ses femmes.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Guinée, le cyclisme est loin d'être un sport populaire comme le football. Le pays n'a pas pu organiser le Tour international en 2020 pour cause de Covid-19. L'édition de 2019 a connu la participation de 8 pays, dont le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
C'est le Burkinabé Sadou Diallo qui a gagné la 9e édition du Tour cycliste international de Guinée. Un événement télévisé, mais qui reste très peu connu du grand public, à l'image de ces Guinéens rencontrés à Conakry.
J'ai une fois assisté à un entraînement de cyclisme à l'esplanade du stade Nongo ici. J'ai une fois assisté à la télé, j'ai beaucoup apprécié, c'était impressionnant.
Cycliste, c'est quoi ça, cycliste? Au fait, je voyais les gens qui font ça, mais je ne connaissais pas le nom, c'est ma première fois d'entendre.
J'entends les gens parler, mais je n'ai jamais assisté ou bien regardé, même si c'est à la télé.
Ah, dans mon pays, je ne connais rien, je ne sais rien de ce qui se passe avec le cyclisme. Ce que moi je connais, les fédérations guinéennes de football, de handball, de volleyball, de basketball.
La fédération cyclisme de Guinée organisait ça à l'époque de temps, là ça racontait. Mais maintenant là, je ne vois plus à la télé.
Le cyclisme, une discipline qui attire chaque année de plus en plus de jeunes, c'est du moins sur le constat de Hadja Amina Tamara, présidente de la Fédération guinéenne du cyclisme.
Nous sommes envahis maintenant parce que c'est une discipline qui intéresse maintenant les jeunes. Et avant, laissez-moi vous dire qu'avant, le vélo, on pensait seulement aux garçons. Maintenant, c'est quelque chose qui intéresse aussi les filles. Et c'est pourquoi l'édition 2019, il y a eu le circuit fermé des filles.
L'ambition ne manque pas chez les coureurs. Mais pour Abdoulaye Bangoura, elle ne suffit pas pour être vainqueur d'un tour cycliste.
Nous avons moins d'activités sur le plan national, qui est aussi très compliqué. Nous avons que le tour international de Guinée. Donc c'est ça qui fait que nous sommes toujours dans l'oubliette. Sur le point de la route, c'est compliqué, mais voilà, on essaie de se débrouiller dans les zones qui sont praticables. Et nous n'avons pas toujours les matériels qu'il faut. C'est compliqué, donc on essaie de se débrouiller pour au moins rester actif.
Les coureurs guinéens n'ont pas de sponsors, ils ne font pas partie des stars du cyclisme africain, mais la Fédération guinéenne du cyclisme peut se réjouir de la réussite du Tour cycliste de Guinée. Hadja Amina Tamara, présidente de la Fédération.
Ce que la Guinée donne en matière de prix, les autres, c'est des zones CFA. Mais quand vous comparez, c'est pas la même chose. C'est pourquoi les autres, ils tiennent à venir compétir chez nous. Et je vous dis franchement que c'est l'occasion pour moi de remercier mon ministère de tutelle qui met le paquet, il y a le tour international, vraiment, qui est là, qui nous accompagne matériellement et financièrement. Et c'est ceux qui encouragent les autres pays à venir en Guinée pour compétir.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.